Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant la rédemption. La rédemption, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous arrivons à l'étude numéro 21 et le titre sera « De la résurrection de Christ à la destruction de Jérusalem ». Nous avançons donc vraiment sérieusement dans tout le courant des Saintes Écritures concernant la rédemption. En parlant du succès de l'œuvre de la rédemption pendant cette période, je considérerai primo le succès en lui-même, secondo l'opposition qu'il a rencontrée de la part de ses adversaires, et tierso les terribles jugements de Dieu contre ses ennemis. Premièrement, nous avons le succès lui-même. D'abord, après que Jésus-Christ a fait son entrée dans le sein des saints avec son propre sang, on commença à voir les fruits de ce qu'il avait fait et de ce qu'il avait souffert. Comme le Seigneur avait sapé, on peut bien dire, les fondements du royaume de Satan, il commença bientôt à s'écrouler. Il courut promptement vers sa ruine, ce qui peut être très bien comparé à la chute de Satan du ciel, rappelez-vous, comme un éclair. Satan avait élevé son trône dans ce monde, aussi haut même que les étoiles des cieux. Il régnait avec gloire dans l'Empire romain tout païen, mais il ne connut jamais de chute semblable à celle qui a eu lieu bientôt après l'ascension de Jésus-Christ. Il est vraisemblable qu'il avait triomphé de la mort de Christ comme de la plus, on peut dire, de la plus grande victoire qu'il y eût jamais remportée. Et il est probable qu'il s'imagina l'ennemi de avoir complètement renversé les plans de Dieu. Mais il a dû sentir bientôt qu'il n'avait fait que travailler à la ruine de son propre royaume quand il a vu tout s'écrouler si vite par suite de la mort de Jésus-Christ. Car Christ, après être monté aux cieux et avoir reçu le Saint-Esprit, le répandit abondamment pour le salut de milliers et de millions d'âmes. Alléluia. Le royaume de Christ n'avait jamais été dans un état si prospère. Il est probable qu'il y eut plus d'âmes qui ont été converties dans le siècle apostolique qu'il y en avait eu depuis le commencement du monde jusqu'alors. Et voilà comment Dieu commença bientôt à accomplir glorieusement la promesse qu'il avait faite à son Fils, qu'il se verrait de la prospérité, que le bon plaisir de l'Éternel prospérerait entre ses mains lorsque il aurait offert son âme en oblation pour le péché de nous tous. Et ici, il faut remarquer le succès de l'Évangile parmi les Juifs, car Dieu a commencé avec eux. Étant sur le point de rejeter la masse du peuple, il a commencé par appeler ses élus qui se trouvaient parmi eux. ce glorieux succès de l'Évangile parmi les Juifs après l'ascension de Jésus-Christ a commencé avec l'envoi du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, noté Actes des Apôtres, chapitre 2. Cette effusion a été si admirable qu'il est dit que 3000 personnes se sont converties à la foi chrétienne dans un seul jour, selon Actes chapitre 2, verset 41. Et après cela, Dieu a ajouté journellement à l'Église des gens pour être sauvés. Bientôt après, le nombre s'est élevé jusqu'à 5000. Non seulement il y a eu des multitudes de convertis, mais l'Église s'est distinguée alors par sa piété, comme on le voit si vous notez attentivement Actes chapitre 2, versets 46 et 47, ainsi que le chapitre 4, verset 32. Et c'est ainsi que l'Église chrétienne se recruta primitivement dans la nation juive. Et quand les non-juifs ont été appelés, ils ont été tous ajoutés à l'Église chrétienne d'Israël, comme autrefois les prosélytes avaient été ajoutés à l'Église mosaïque d'Israël. L'Église chrétienne a commencé à Jérusalem et elle se répandit de là parmi toutes les nations, de sorte que cette Église de Jérusalem a été la même de toutes les autres dans le monde, conformément à la prophétie qui dit « Car la loi sortira de Sion » et la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem. Il exercera le jugement parmi les nations, et il reprendra plusieurs peuples. Notez Ésaïe chapitre 2, versets 3 et 4. De sorte que l'ensemble de l'Église de Dieu est toujours la Jérusalem spirituelle. En outre, il est parlé de plusieurs milliers de Juifs qui ont commencé à croire à Jérusalem. Notez Actes chapitre 20, verset 21. Dans d'autres villes de la Judée également, et dans d'autres parties du monde, car les apôtres avaient l'habitude de se rendre d'abord dans les synagogues des Juifs, et de leur prêcher l'Évangile, et plusieurs d'entre eux, dans d'autres villes, ont commencé à croire, comme à Damas, à Antioche et ailleurs. Avec cette effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte a commencé cette première et grande dispensation que on l'appelle la venue de Christ dans son royaume. Cette venue spirituelle de Christ pour le glorieux établissement de son royaume dans le monde est représentée comme étant une descente des cieux où il s'était élevé. Car je ne vous laisserai point orphelin, est-il dit, et je viendrai vers vous. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens à vous. Notez Saint Jean, chapitre 14, versets 18 et 28. C'est donc ainsi que, selon la promesse qu'il leur avait faite, les apôtres ont vu, ils ont vu le royaume des cieux venant avec puissance. Notez Saint Marc, chapitre 9, verset 1. chers amis, quand l'Évangile a ainsi commencé à faire de grands progrès parmi les Juifs, l'Esprit de Dieu fut miraculeusement répandu sur les Samaritains. Ils étaient les descendants de ceux que le roi d'Assyrie avait pris dans les diverses parties de son royaume pour les établir dans le pays habité par les 10 tribus qu'il avait conduites en captivité. Ils avaient donc les saints livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, etc. Et ils observaient la plupart des rites mosaïques, de sorte qu'ils étaient des espèces de juifs métis. Dans le Nouveau Testament, ils ne sont pas rangés parmi les non-juifs, car après cela, il est parlé de la conversion des non-juifs comme d'une chose nouvelle, qui commença avec la conversion de Corneille. Le peuple crut donc ce que Philippe, cet apôtre merveilleux, ce disciple Philippe, leur avait annoncé, touchant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, tant les hommes que les femmes ont été baptisés. Ils furent sauvés, ils ont accepté Jésus-Christ et immédiatement ils ont été baptisés. Et il y avait une grande joie dans cette ville-là. Notez Actes chapitre 8, verset 8 jusqu'au verset 12. Ainsi, Christ a eu une belle moisson à Samarie, conformément à ce qu'il avait dit à ses disciples près du puits de Jacob, 3 ou 4 années auparavant, quand il a vu dans le lointain les gens de Samarie qui s'approchaient. Notez Saint Jean chapitre 4, versets 35 et 36. Les dispositions du peuple de Samarie envers Jésus-Christ et son évangile ont montré qu'ils étaient mûrs pour la moisson. Et maintenant, Philippe la recueille en prêchant. Il régnait donc une très grande inimitié entre les Juifs et les Samaritains en ce temps-là, mais ils sont maintenant, heureusement, réconciliés par suite de leur conversion. Car en Jésus-Christ, il n'y a ni juif, ni samaritain, mais Jésus-Christ est tout en tous. Ce fut donc là une de ces circonstances remarquables dans lesquelles on a vu le loup habiter avec l'agneau et le léopard avec le chevreau. Chers amis, nous remarquerons ensuite la vocation des non-juifs. Ce fut là une dispensation grande et glorieuse dont il est souvent question dans l'Ancien Testament et dans les écrits, également dans les écrits des apôtres. Elle commença donc avec la conversion de Corneille, rappelez-vous, et de toute sa famille. À la grande surprise même de l'apôtre Pierre, qui en fut l'instrument, et de tous ceux qui étaient avec lui. Notez Actes, chapitre 10 et le chapitre 11. Nous en avons un autre exemple dans la conversion d'un grand nombre de non-juifs à Chypre, à Cyrène et à Antioche, opérés par les disciples qui furent dispersés à la suite de la persécution qui s'est élevée à l'occasion d'Étienne. Oui, vous savez que Étienne a été terriblement, on peut dire, lapidé. C'est horrible. On ne peut pas imaginer la mort que ça peut être. C'est à peu près comme la crucifixion. À moins qu'une grosse pierre vous atteint au front et que vous soyez immédiatement mort. Notez Actes chapitre 11, versets 19 à 21. Et ce fut d'abord après cela que les disciples ont commencé d'être appelés vraiment les chrétiens à Antioche. Les chrétiens. Plus tard, des multitudes de non-juifs furent convertis dans les diverses parties du monde, surtout par le ministère de l'apôtre Paul, qui fut accompagné d'une grande effusion du Saint-Esprit. Des multitudes entières se sont joints à l'Église chrétienne dans beaucoup de villes où les apôtres se sont rendus, de sorte que le nombre des non-juifs dans l'Église chrétienne commençait à dépasser bientôt, de beaucoup même, celui des juifs. Bien plus, moins de 10 ans après que l'apôtre Paul a été envoyé de Antioche pour prêcher aux non-juifs, on dit de lui et de ses compagnons qu'ils avaient remué tout le monde, car il est dit « Ceux-ci qui ont remué tout le monde sont aussi venus ici ». Notez Actes chapitre 17, verset 6. Mais ce qui se passa à Éphèse, qui était une très grande ville, fut surtout remarquable. Notez Actes chapitre 19. Là, il y a eu aussi des conversions très extraordinaires à Corinthe. Corinthe, une des plus grandes villes de la Grèce. Ensuite, plusieurs furent convertis à Rome, qui était la ville principale du monde connu, et l'Évangile se répandit dans toutes les parties de l'Empire romain. Ainsi le soleil de l'Évangile, qui s'était dernièrement levé pour les Juifs, a commencé à éclairer le monde païen qui avait été pendant tellement de siècles dans les ténèbres du paganisme. Ce fut donc là un grand événement qui n'avait jamais eu son semblable. Le monde païen avait été recouvert des profondes ténèbres de l'idolâtrie. Mais maintenant, à la voix de l'Évangile, ils ont commencé partout. Oui, partout, ils ont commencé à abandonner les idoles, les icônes, et à jeter tout cela aux taupes et aux chauves-souris. Ils ont donc appris à adorer le vrai Dieu et à se confier en son Fils Jésus-Christ. Dieu les a reconnus, il les a reconnus pour son peuple, et ceux qui pendant si longtemps avaient été loin ont été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Des hommes païens et grossiers par nature sont devenus enfants de Dieu. Ils ont passé du royaume ténébreux de Satan dans celui de la merveilleuse lumière de Dieu. Dans presque tous les pays du monde connu, il y a eu des assemblées chrétiennes et on chanta joyeusement les louanges de Dieu et de Jésus-Christ, le grand Rédempteur. Et bien maintenant, ce grand édifice auquel Dieu a commencé à travailler bientôt après la chute de l'homme s'est élevé majestueusement. Les prophéties de Daniel concernant le dernier royaume qui devait succéder aux quatre monarchies païennes ont commencé à présent à s'accomplir. La pierre coupée sans main de la montagne commença à briser l'image à ses pieds et à se préparer à remplir le monde. Dieu, présentement, rassemble maintenant ses élus des quatre vents des cieux au moyen de la prédication des apôtres et d'autres serviteurs, même des anges de l'Église chrétienne, envoyés avec un grand son de trompette avant la destruction de Jérusalem, conformément à ce que Christ avait pourtant bien prédit dans saint Matthieu, chapitre 24, verset 31. Deuxièmement, je ferai remarquer maintenant l'opposition que le succès de la rédemption accomplie par Jésus-Christ rencontra de la part de ses ennemis. Satan, qui tout dernièrement encore était prêt à triompher et à se réjouir, comme s'il avait remporté la victoire en faisant mourir Jésus-Christ, se trouvant maintenant précipité dans l'abîme qu'il avait lui-même creusé, et voyant que son royaume s'écroulait avec tant de rapidité, tandis que celui de Jésus-Christ faisait des progrès si surprenants, et l'ennemi fut confus et surpris, et il semble avoir réussi à effrayer même l'enfer pour le porter à la plus violente opposition. Alors ils commencèrent par se saisir d'eux et de les menacer. Et après quoi, ils ont commencé par emprisonner les chrétiens et à les battre jusqu'à la mort. Et ne respirant que menaces et carnage contre tous les disciples de Jésus, ils ont donc, comme je vous l'avais déjà dit, ils ont lapidé Étienne dans toute leur fureur. Ils ne se sont pas contentés de persécuter ceux qu'ils trouvèrent en Judée, mais ils ont envoyé également à Damas et ailleurs pour persécuter tous ceux qu'on pourrait trouver, tous les chrétiens. Hérode, qui était leur chef, persécuta l'Église. Il fit périr Jacques par l'épée et il fit saisir l'apôtre Pierre et il l'a mis en prison. Il l'a fait mettre carrément en prison. Et troisièmement, la grande masse du peuple fut donc abandonnée à l'aveuglement de l'esprit et à l'endurcissement du cœur par un jugement de Dieu. Christ leur annonça ce malheur dans les jours de sa chair. Notez saint Matthieu, chapitre 13, versets 14 et 15. L'apôtre Paul leur dénonça également cette malédiction. Notez Actes, chapitre 28, versets 25 à 27. Et ils sont encore aujourd'hui dans cette malédiction, dans cet endurcissement et dans cet aveuglement. Le dernier jugement de Dieu contre les ennemis du succès de l'Évangile que je signalerai est la désolation de leur ville et de leur pays par les Romains. Ils ont eu de très grands avertissements avant cette destruction. Jean-Baptiste, le premier, les avait avertis et leur avait dit que la hache était mise à la racine de l'herbe de l'arbre et que tout arbre qui ne porterait pas de fruit serait donc coupé et jeté au feu. Christ, à son tour, les a également avertis soigneusement. Il leur a parlé de la destruction qui approchait et dont la seule pensée l'a fait pleurer sur eux. Mais voilà, ils ont persévéré dans leur obstination. Ils ont continué de s'opposer à l'Église chrétienne et de la persécuter. Leur cruelle persécution de l'apôtre Paul, dont nous avons un récit vers la fin du livre des Actes, semble être arrivée seulement 7 ou 8 années avant leur destruction. Après cela, Dieu leur a donné encore un autre avertissement très remarquable par le moyen de l'apôtre Paul dans son épître aux Hébreux, écrite à ce qu'on suppose environ 4 années avant leur destruction. Elle renferme donc cet épître aux Hébreux, elle renferme les arguments les plus clairs et les plus simples tirés de leur propre loi et de leurs prophètes, pour lesquels ils professaient tant de respect afin de prouver que Jésus-Christ doit être le Fils de Dieu, que toute leur loi lui a servi de type et que la dispensation juive doit nécessairement être parvenue à son terme. Il est important que je vous répète cela pour mieux le comprendre. Donc, cet épître aux Hébreux renferme tous les arguments les plus clairs et les plus simples, tirés de leur propre loi et de tous leurs prophètes, pour lesquels ils ont professé tellement de respect, afin de prouver que Jésus-Christ doit vraiment être le Fils de Dieu, et que toute leur loi lui a servi de type, et que la dispensation juive doit nécessairement être parvenue à son terme. Car bien que l'épître ait été adressée plus immédiatement aux chrétiens d'origine juive, toutefois les sujets traités dans l'épître montrent très clairement que l'apôtre se proposait de convaincre les juifs incrédules. Et dans cet épître, il fait particulièrement mention de la destruction qui s'approche, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour, est-il dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 25. Il parle donc du jugement qui s'approche et de l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Hébreux, chapitre 10, verset 27. Mais comme la masse du peuple refusait de se laisser convaincre, Dieu les a détruits bientôt avec des terreurs dont on ne trouve pas d'exemple dans la désolation d'aucun pays ou d'aucune ville depuis la fondation du monde, conformément à ce que Jésus-Christ avait prédit. car alors, il dit, il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, ni il n'y en aura plus de telle. Notez Saint Matthieu, chapitre 24, verset 21. La destruction de Jérusalem par les Babyloniens fut terrible, comme on le voit par la touchante description que le prophète Jérémie en donne dans ses lamentations. Mais ce ne fut rien en comparaison des malheurs qu'ils eurent à endurer ensuite. Dieu, comme Jésus-Christ, l'avait pourtant prédit. Dieu a vu venir sur eux tout le sang des justes qui avait été versé depuis la fondation du monde. Et c'est ainsi que les ennemis de Jésus-Christ deviennent, après son ascension, le marchepied de ses pieds, conformément à la promesse de Dieu dans le psaume 60. Et il les gouverne, est-il dit, avec une verge de fer. Les ronces et les épines se sont élevées en bataille contre lui, mais il a passé à travers elles et il les a brûlées. La destruction de Jérusalem a eu lieu à tous égards, conformément à ce que Jésus-Christ avait prédit. Notez Saint Matthieu, chapitre 24. Comme on le voit par le récit que en donne Joseph, Joseph qui fut témoin oculaire, il y eut sa part dans cette calamité. Et il a écrit l'histoire de leur destruction. Nous ne parlons pas du même Joseph que dans l'Ancien Testament, vous le comprenez. Par plusieurs circonstances, tout cela ressemble à la destruction des méchants au jour du jugement. On voit par son récit qu'elle fut accompagnée de plusieurs signes dans les cieux et d'une séparation des bons avec les méchants. Leur ville et leur temple furent brûlées et détruites, et cela de fond en comble, et le sol fut même labouré, de sorte qu'il ne fut pas laissé pierre sur pierre. Notez Saint Matthieu, chapitre 24, verset 2. Nous terminons pour aujourd'hui cette très courte étude. Nous en aurons des beaucoup plus longues par la suite. Le peuple, chers amis, avait presque entièrement perdu son indépendance après la captivité de Babylone. Mais le sceptre se départit entièrement de Juda à la mort d'Archélaüs, alors que la Judée est devenue une province romaine. Après cela, ils furent rejetés et ils ont cessé d'être le peuple de Dieu. Et maintenant leur ville et leur pays sont désolés. Ils en ont été transportés et ils ont ainsi été dispersés par le monde pendant environ 1600 ans. 1600 ans. Et c'est ainsi que l'Ancien Testament prit fin et tout se termina par une espèce de jour de jugement dans lequel le peuple de Dieu fut sauvé et ses ennemis furent détruits. Nous continuerons notre étude demain matin, Dieu voulant. si j'en ai la possibilité, ce sera, je pense, le numéro 22. Ce sera le CD numéro 22. Et nous aurons de la destruction de Jérusalem jusqu'au règne de Constantin. Nous n'arrivons pas encore au Nouveau Testament. Chers amis, maintenant, avant de prier ensemble, j'ai reçu quelque chose pour vous transmettre, et c'est pour votre édification personnelle et aussi pour votre encouragement. Voici donc, écoutez bien ce que le Seigneur me donne pour vous transmettre. C'est en recherchant le compagnonnage divin que l'âme évolue et se transforme. Il ne s'agit pas tellement de demander au Seigneur ceci ou cela, mais il s'agit plutôt de vivre avec lui, de vivre en sa compagnie, de penser à lui, de lui parler souvent. C'est ainsi qu'on croit à sa ressemblance. Donnez donc votre cœur à Jésus. Reposez-vous sur lui. Mettez en Jésus-Christ votre joie. Si vous louez, bénissez et adorez Jésus-Christ, il vous rendra semblable à lui. Vous consentez donc à boire la coupe que doit boire Jésus-Christ lui-même, celle de la douleur et des déceptions. Puisqu'il en est ainsi, vous entrez dans le cercle de ses intimes et vous croîtrez toujours davantage à son image. Oui, à lui votre maître. Mais aujourd'hui, comme au jour de Moïse, il demeure vrai que nul homme ne peut voir la face de Dieu et vivre. Le moi humain, l'homme du péché originel, s'étiole et meurt. Et sur l'âme s'imprime alors son image, oui, l'image de Dieu. Et maintenant, nous allons prier ensemble. Éternel, la voix de l'homme ne dépend pas de lui, et il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de bien diriger ses pas. Que le sage ne se glorifie point dans sa sagesse, que le fort ne se glorifie point dans sa force, que le riche ne se glorifie point dans ses richesses, mais que celui qui se glorifie en ce qu'il a de l'intelligence, en ce qu'il me connaît, dit le Seigneur, et qu'il sait que je suis l'Éternel qui exerce la miséricorde, le jugement et la justice sur toute la terre, car je prends plaisir en toutes ces choses. Le cœur de l'homme est trompeur et désespérément malin par-dessus toutes choses. Qui le connaîtra vraiment? Tu es l'Éternel qui sonde le cœur et qui éprouve les reins pour rendre à chacun selon le fruit de ses actions. Ô Éternel, guéris-nous et nous serons guéris. Sauve-nous et nous serons sauvés. Ne suis-je Dieu que de près, dit le Seigneur, et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu'un se pourrait-il cacher dans quelque cachette que je ne le vois pas? Est-ce que je ne remplis pas les cieux et la terre? Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise la pierre? C'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai toutes leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi a dit l'Éternel, qui donne le soleil pour être la lumière du jour et qui règle la lune et les étoiles pour être la lumière de la nuit, qui agite la mer et duquel le nom est l'Éternel des armées. Gloire soit donc rendue à l'Éternel. Amen. Amen. Et maintenant, j'essaye de vous mettre quelques chants d'un lointain passé, 1962. Évidemment, vous comprendrez qu'en ce temps-là, les enregistrements sur bande, avec le temps qui s'est écoulé, un demi-siècle, eh bien, la qualité n'est plus très bonne. Mais l'essentiel, c'est ce qui est dans le fond de ces chants, des mots que malheureusement on ne peut pas bien comprendre, pas toujours, mais vous recevrez tout de même quelque chose dans votre cœur et dans votre esprit. Je vais essayer de mettre cela maintenant.
Jesus. these days as he's feeding us out of his mouth. This is a word of life for us, the word that we take and we devour. It becomes our very being, doesn't it?
The Lord.